L'actualité, Lénaïque Monnier, Bernard Porrette.
Lénaïque, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
23e acte, comme on dit, des Gilets jaunes. Et les Black Blocs peut-être attendus à Paris.
En tout cas, les autorités craignent du débordement. Un samedi noir où 60 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Les catholiques reprennent espoir à la veille de Pâques. Le choc de l'incendie de Notre-Dame commence à passer. Hier, les fidèles ont même pu procéder au chemin de croix près de la cathédrale. Et puis, pourquoi ne pas retourner sur la Lune 50 ans après ? La Cité de l'Espace à Toulouse vous propose un voyage presque comme si vous y étiez.
23e samedi de mobilisation des Gilets jaunes avec cette question. Faut-il s'attendre à un samedi noir ?
Le rassemblement, en tout cas, porte un nom qui semble l'indiquer. Ultimatum 2, voilà de quoi susciter la crainte des autorités. Christophe Castaner a d'ailleurs prévenu, les casseurs seront là. D'où la mobilisation de 60 000 policiers et gendarmes. Des Black Blocs présents, comme le 16 mars dernier. Mais la mouvance autonome a perdu cette semaine l'un de ses meneurs. Il a été interpellé après une bagarre avec l'ultra-droite. Pour le leadership justement de la manifestation, les informations de Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Il y a eu le match aller, le retour et la belle. Trois bagarres en à peine quelques jours dans les rues de Paris, entre ultra-gauche et ultra-droite, qui se disputent depuis des semaines la tête des cortèges de gilets jaunes. D'après nos informations, ces affrontements se sont soldés par une cinglante défaite de l'ultra-droite sur le plan physique. Plusieurs de ces militants ont été blessés, à tel point qu'ils ont déposé plainte, ce qui n'est pas dans leurs habitudes. En revanche, l'ultra-gauche, victorieuse sur le terrain, a perdu sur le plan judiciaire. Une dizaine de ses membres ont été interpellés, dont l'un de ses leaders influents, Antonin Bernanos. Le jeune homme, très suivi par les Antifa, dort à la prison de Fresnes depuis jeudi soir, ce qui pourrait émousser la détermination de certains militants de la mouvance anarcho-autonome qui rejoignent habituellement les défilés gilets jaunes pour casser. Plusieurs envisageaient d'ailleurs déjà de se réserver pour le 1er mai et ceux qui sortiront aujourd'hui feront face à un important dispositif policier renforcé cette fois par des motards pour être encore plus réactifs face aux casseurs.
Salomé Legrand pour Europe 1 et pour apporter une réponse aux Gilets jaunes, Emmanuel Macron devait annoncer les mesures à l'issue du grand débat. Allocution reportée à cause de l'incendie de Notre-Dame, le président fera finalement ses annonces jeudi à 18h.
Les catholiques, justement, commencent à reprendre espoir.
Après le choc de lundi, les nouvelles sont plus rassurantes et ce week-end de Pâques pourrait presque être normal pour les catholiques, mais surtout pour ceux de Paris, puisqu'hier, le chemin de croix a pu se tenir près de Notre-Dame. Mathieu Bock.
Alors que tous les fidèles s'éparpillent après la procession, Karine reste accoudée au pont, les yeux rivés sur Notre-Dame.
C'était très fort, surtout après l'événement de lundi. C'était très poignant et ça reste encore.
Ouais. C'est pour ça que vous avez un peu de mal à quitter, à partir.
Oui, c'est ça, j'arrive pas à partir en fait. Je suis scotchée devant Notre-Dame là, et ça annonce des belles fêtes de Pâques, mais avec ce côté du cœur qui est meurtri, blessé.
Pour Gonzague aussi, cette procession clôture une semaine sainte éprouvante, même s'il a vu quelques signes d'espoir.
Là pour nous, aujourd'hui, vendredi, c'est un jour de tristesse. Après, on a le jour de l'attente le samedi, puis on a le jour de la joie le dimanche. Bah, c'est un peu la même chose avec Notre-Dame. On est sûr qu'après le jour de la tristesse qui a été lundi, mardi, il y a l'attente de savoir est-ce qu'on pourra sauver le bâtiment. Puis après, il y a la reconstruction qu'on espère à l'identique. Il y a eu beaucoup de petits clins d'œil de la Providence toute la semaine, puisque voilà, on a réussi à sauver le trésor de la cathédrale. Le bâtiment lui-même ne s'est pas effondré, on a retrouvé le coq. Enfin, il y a plein de petits clins d'œil et demain, on pourra aller mieux. Voilà. Dans la communion et dans l'espérance.
Et pour la messe de dimanche, Gonzague retournera dans sa paroisse à Boulogne-Billancourt, qu'il avait quittée exceptionnellement pour cette procession historique.
Et j'ajoute qu'Europe 1 s'associe au grand concert de soutien et de mobilisation pour la rénovation de Notre-Dame diffusé sur France 2 ce soir. Concert en direct des Invalides dès 21h avec Lang Lang, le pianiste Gauthier Capuçon, Vincent Niclot, la comédie musicale Notre-Dame de Paris. C'est gratuit, mais avant cela, il faut s'inscrire sur le site émission-tv.com.
Émission au pluriel, je le précise. Les mauvais chiffres de la sécurité routière. Le mois de mars 2019 a été particulièrement meurtrier.
250 personnes ont perdu la vie sur les routes de France, soit 17 victimes de plus qu'en mars 2018. C'est le troisième mois consécutif de hausse de la mortalité, Aude Leroy.
En mars, comme ce fut le cas en février, les premières victimes de la route sont principalement les cyclistes, les pilotes de deux-roues motorisées et les piétons, plutôt en agglomération, explique Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière. Alors, s'il invoque le beau temps, il parle aussi d'un effet de la dégradation des radars, avec une augmentation de la vitesse sur les routes, mais pas comme on l'imagine, non, une hausse de 1 km/h globalement.
Beaucoup de Français, c'est pas qu'ils se mettent à foncer et à rouler comme des fous, il y en a, hein, mais c'est pas du tout la majorité. Pour mémoire, on estime en France qu'il y a à peu près 55 millions de véhicules à moteur qui sont assurés et ils parcourent chaque année 630 milliards de kilomètres. Donc 1 km heure de cette masse de véhicules, c'est beaucoup. En fait, c'est une augmentation du risque. Ça a l'air de rien numériquement, mais qui est très forte.
Et en ce week-end pascal, Emmanuel Barbe rappelle que de nombreux radars fonctionnent à nouveau sur les routes de l'Est et du Sud-Est, notamment de la France. Une façon d'inciter les conducteurs à faire plus attention au volant.
Aude Leroy pour Europe 1, et justement faites attention car vous serez nombreux sur les routes aujourd'hui, c'est le week-end de Pâques, le début des vacances de la zone C. La journée est classée orange au niveau national après une journée verte dimanche, ça va de nouveau se corser dès lundi.
Dans un instant, la suite de ce journal avec une bonne nouvelle sans doute pour les allergiques. La solution pour remédier à vos allergies, ou peut-être une partie de celles-ci, vient peut-être de votre propre organisme.
Europe 1, il est 6h06.
6h-9h, Bernard Poirette sur Europe 1.
Retour de l'actu avec Lénaïque Monnier et Bernard Poirette.
Lénaïque, voici peut-être un remède pour tous les Français, ils sont très nombreux, qui souffrent d'allergies alimentaires.
1 à 3% des Français, 5% d'enfants en souffrent, autant de personnes qui ne tolèrent pas, par exemple, les cacahuètes, les œufs ou encore les crustacés. À part se priver de ces aliments, il n'y a pratiquement aucune solution, enfin jusqu'à présent, car la science avance et l'antidote pourrait venir de nos propres bactéries. Les précisions de Mélanie Gomez.
Chez les personnes souffrant d'allergies alimentaires en général, la flore intestinale, qu'on appelle aussi microbiote, est moins riche en bonnes bactéries. Et le problème, c'est que ces bonnes bactéries qui habitent nos intestins agiraient sur notre système immunitaire. En clair, plus elles sont nombreuses et présentes en grande variété, plus cela nous protégerait contre les allergies. Du coup, le pari des chercheurs en ce moment, c'est d'essayer d'enrichir la flore intestinale des allergiques en bonnes bactéries. Par contre, oubliez les mini-bouteilles de probiotiques vendues en supermarché. Sur les allergies, on sait que ça ne marche pas, mais une autre piste est à l'étude, selon le docteur Karine Larubillard, allergologue à l'hôpital de Meaux.
Le principe, c'est d'apporter au sein des intestins qui n'ont pas certaines bactéries qui leur sont utiles, c'est de leur apporter les bactéries de l'intestin de quelqu'un d'autre, donc de faire manger du microbiote de quelqu'un d'autre qui n'a pas d'allergie. Donc ça se fait par administration de petites gélules de microbiote encapsulées qu'on prend par la bouche.
Alors une dizaine d'essais cliniques sont en cours pour tester ce procédé chez des enfants avec des allergies alimentaires sévères. On n'a pas encore les résultats définitifs, mais selon les spécialistes, c'est déjà très prometteur. Cette technique est aussi testée dans des maladies de l'intestin, comme la maladie de Crohn.
Mélanie Gomez pour Europe 1.
Et puis voici un projet de très longue date de la NASA américaine. On en a parlé déjà il y a quelques semaines avec Alain Sirou, notre spécialiste scientifique du dimanche. Il s'agit de retourner éventuellement sur la Lune.
Les Américains y pensent, mais ils ne sont pas les seuls. Les Russes et les Chinois y travaillent aussi sérieusement. 50 ans, évidemment, après le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune, l'exposition est en ce moment à Toulouse. Elle imagine une base scientifique et savoir comment l'homme pourrait retourner sur le satellite. Enfilez vite votre scaphandre. Notre correspondant Benjamin Peter nous fait découvrir cette exposition.
On vient d'atterrir, le sol est jonché de cratères et de traces de pas. Plusieurs bulles, comme des éléments d'une colonie établie là-haut, permettent de découvrir comment s'y installer, s'y nourrir, s'y déplacer. Et pour l'astronaute Jean-Jacques Favier, ce n'est pas de la science-fiction, on retournera prochainement sur la Lune.
On a la chance d'avoir une plateforme pas très loin, il faut 3 jours pour y aller, qui permettra en fait d'avancer dans les technologies, résoudre toutes les difficultés que l'on rencontrera quand on voudra aller beaucoup plus loin, et vers Mars en particulier.
On peut découvrir que le sol lunaire est noir, mais qu'il nous paraît gris lorsqu'il est éclairé par le soleil, ou l'odeur de notre satellite, pas très engageant.
Une odeur un peu sombre, de vieille maison peut-être un peu. On n'imagine pas qu'il peut y avoir une odeur aussi importante malgré tout.
On comprend aussi que la gravité n'y est pas du tout la même. Aude Lesty est la commissaire de l'exposition.
C'est une pelle qu'on peut soulever en conditions terrestres. Elle a un certain poids. Et puis vous en voyez une deuxième qui est présentée sur un sol lunaire. Si je la soulève, la pelle lunaire me semble beaucoup plus légère. Pourquoi ? Parce que sur la Lune, on est au 6e de gravité, 6 fois plus léger. Et c'est ce genre d'expérience très concrète qu'on veut faire ressentir aux visiteurs dans cette exposition.
l'exposition sera complétée par l'installation d'une réplique grandeur nature du module lunaire à l'extérieur de la cité dès le 21 juillet pour célébrer les 50 ans du succès de la mission Apollo 11. Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Et il y a aussi une exposition en ce moment au Grand Palais à Paris, sur le thème de la Lune évidemment. Du voyage réel aux voyages imaginaires, c'est jusqu'au 22 juillet.
Et à 6h10, c'est votre journal des sports avec Lénaïque Monnier.
On commence avec le tennis, Lénaïque, la Fed Cup exactement. Elle fait étape à Rouen et les joueuses de l'équipe de France de tennis espèrent bien aller en finale.
Face aux Bleus, la Roumanie qui ne s'est jamais qualifiée pour une finale mais qui est une équipe à prendre au sérieux. Elle est emmenée par Simona Halep, numéro 2 mondial, gagnante de Roland-Garros l'année dernière. C'est en tout cas un beau défi à relever pour les Françaises qui espèrent retrouver une finale. 3 ans après celle perdue à Strasbourg face aux Tchèques. Écoutez Caroline Garcia.
Chaque week-end de Fed Cup, peu importe l'équipe en face, est un beau challenge. Que ce soit à la maison ou à l'extérieur, c'est tout le temps un week-end spécial, excitant. Plein de tensions, mais c'est vraiment quelque chose qu'on est toutes prêtes à affronter et qu'on est contentes d'affronter. Évidemment, la Roumanie est un sacré défi avec Simona Halep, qui en fait sa priorité numéro 1 de la saison, qui est une redoutable adversaire, peu importe la surface, qui a un très beau palmarès et une équipe plus que solide derrière elle. Elles ont battu la République tchèque chez elles, donc ça représente quelque chose de très important. Donc évidemment, je suis prête, toute l'équipe est prête et je suis vraiment excitée à l'idée de commencer ce week-end.
Caroline Garcia avec Corinne Boulou.
En Ligue 1 de football, apparemment ça va un peu mieux pour Lyon.
Alors que l'OL restait sur 3 défaites, dont 2 en Ligue 1, les Lyonnais se sont remis en selle en gagnant à Angers. C'est la 33e journée de Ligue 1. Lyon conforte sa 3e place devant Saint-Etienne et Marseille qui iront respectivement ce week-end à Reims et à Guingamp.
Pas de top 14 de rugby ce week-end, mais des matchs de Coupe d'Europe.
Le challenge européen, c'est la petite Coupe d'Europe où Clermont et La Rochelle espèrent bien s'illustrer. Simon Rubin.
Oui, alors d'abord, vous avez Clermont, un deuxième du championnat qui court après le titre en top 14, mais aussi après un trophée européen, hein, même si ce n'est pas la grande Coupe d'Europe, qu'il y a sans doute moins de prestige. Eh bien, au club, tout le monde en rêve. D'ailleurs, le stade sera plein ce soir pour accueillir l'équipe anglaise des Harlequins. Rappelons que Clermont n'a gagné que 2 Coupes d'Europe, hein, à chaque fois les petites Coupes d'Europe dans son histoire. Et la dernière victoire, c'était il y a 12 ans. Et puis, un peu plus tôt, hein, à 18h30, La Rochelle sera également en lice face à Sale. Alors là, ce n'est pas le même contexte. La Rochelle bataille plutôt en milieu de tableau en championnat et voit vraiment cette Coupe d'Europe comme l'opportunité de donner une autre saveur à une saison un petit peu terne. La Rochelle, club qui n'est, il faut le rappeler, dans le top 14 que depuis 5 ans et qui rêve donc d'accrocher une première finale européenne.
Et Toulouse jouera demain sur la pelouse du Leinster, mais là ce sera la grande Coupe d'Europe.
Enfin, de la boxe tout de même, puisqu'il n'y a pas de combat prévu entre Miller et Joshua.
C'était un combat de poids lourd prévu le 1er juin au Madison Square Garden de New York, sauf que le boxeur américain Miller a fait l'objet d'un deuxième contrôle antidopage positif, sans doute de l'hormone de croissance. Il avait déjà été attrapé par la patrouille une première fois en 2014, lorsqu'il faisait du kickboxing.
Et donc ce match du 1er juin est annulé. Merci beaucoup Lénaïque Monnier, c'était le premier journal de la tranche, celui de 6h. Et Lénaïque revient tout à l'heure à 7h pour son deuxième journal.
Et il est 6h13 et vous écoutez votre matinale du week-end sur Europe 1.
Et tout de suite, nous retrouvons José Coves, le pronostiqueur hippique de la Maison Europe 1. José, bonjour.
Bernard, bonjour.
2 événements sur l'hippodrome d'Anguin aujourd'hui. D'abord, le crack Bold Eagle sera, enfin il aurait dû être au départ du prix de l'Atlantique, mais apparemment il est malade, on verra ça tout à l'heure dans 1 heure. Avec l'autre pronostiqueur hippique, l'homme de Paris Turf. Et puis, il y a la 3e course qui sert de support au quintet, dans laquelle 13 pouliches de 4 ans sont au départ.
5 juments sortent de ce peloton en tête. Fréja Dupont, numéro 5. Elle vient de s'imposer en roue libre avec le maestro Jean-Michel Bazir et ce couple est reconduit pour le meilleur. Oublions le dernier échec de Fania Derac, le numéro 7. Elle s'est souvent placée à ce niveau. Flèche Bourbon, numéro 6, a les moyens de tenir tête à la favorite Fréja Dupont. Le 3, Femme Infortune, la seule à s'être imposée à 2 reprises sur ce même tracé des 2875 mètres. Quant au 11, Fond la Bise, elle se donne toujours à fond. En cas de défaillance, la susceptible Fly Away Us, le 12, elle est capable du meilleur comme du pire. Et enfin, le 13, Ferretaria et le 4, Ferry White, 2 candidates à une toute petite place. Voici donc mon ticket pour la 3e course vers 15h15. D'abord le 5, le 7, le 6, le 3 et le 11. Et ensuite, le 12, le 13 et le 4.
Je me permets de répéter donc 5, 7, 6, 3, 11, 12, 13 et 4. Et je confirme que Bold Eagle, qui est souffrant, ne participera pas cet après-midi au prix de l'Atlantique.
Et si vous voulez retrouver les pronostics de José Coves, vous le pouvez bien sûr sur europe1.fr.